regardez à celui qui a tant souffert de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez pas l'âme découragée. À cause de son cortège triomphal, à cause de sa jonchée de feuillage, à cause des acclamations enthousiastes qui ont marqué, l'événement que nous rappelle la fête des rameaux se présente à nous, traditionnellement, avec une physionomie de joie. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais il ne faut pas oublier que ce jour de joie a comporté aussi de la souffrance. L'Évangile ne nous raconte-t-il pas que lorsque la joyeuse troupe atteignit au flanc du mont des Oliviers le petit col d'où l'on aperçoit la ville sainte, Jésus, qui savait ce qui allait se passer, pleura. Non pas pour lui, certes, mais pour ceux qui allaient commettre, en le faisant mourir, le crime suprême. Et ne nous trouvons pas aussi la preuve d'une grande souffrance du Seigneur dans le geste par lequel, ce même jour, il chasse les marchands du temple. On aurait pu le lire dans les versets qui précédaient cette lecture. Cela traduisant son infinie douleur en présence des infidélités humaines, des infidélités surtout de ceux qui prétendent servir Dieu et qui en réalité le bafouent. De même que parfois, l'éclat d'un beau jour d'été est brusquement obscurci par un nuage noir qui passe. Ainsi, la joie des rameaux est traversée par de grandes ombres, de grandes souffrances. Ce ne devait d'ailleurs être qu'un commencement. Et à mesure de la semaine qui va s'écouler, l'ombre va se faire plus épaisse. Les nuages noirs vont s'accumuler. La souffrance va devenir plus cruelle, plus lourde au cœur de Jésus. D'heure en heure, il sentira se préciser la menace de ses ennemis, se rétrécir le cercle de leur haine mortelle. Il s'apercevra aussi que ceux sur lesquels il croyait pouvoir compter l'abandonnent, que ses disciples eux-mêmes vacillent. Il en verra un à le trahir. Il se sentira seul, affreusement seul, triste jusqu'à la mort. Et puis, au terme du chemin, la croix. La croix avec toutes les douleurs physiques et morales qu'elle comporte. La croix où son corps saignera, où son âme défaillera. La croix qui sera certes un instrument de salut pour le monde, mais qui ne le sera que parce qu'elle aura été d'abord, pour lui, un instrument de souffrance infinie. Chaque année, pendant la semaine sainte, cette semaine qui débute aujourd'hui, nous accompagnons notre Sauveur sur ce chemin de souffrance. Certaines fois, nous avons accompli ce chemin avec une vraie ferveur. Mais nous gardons aussi le souvenir de semaines saintes froides, sans émotion, sans profondeur, au cours desquelles nous n'avons pas réellement communié avec la passion de Jésus. Cette année encore, hélas, comme les années précédentes, et peut-être ce n'est rien à côté de ce qui nous attend. Cette année encore, il nous sera difficile de garder le cœur froid, tant les événements du monde que nous vivons sont chaque jour plus préoccupants et nous obligent en quelque sorte à prêter une attention exceptionnelle au drame de souffrance que la Semaine Sainte nous rappelle. Pour nous aussi, il y a des nuages noirs. Pour nous aussi, il y a des menaces d'orage. Pour nous aussi, il y a des déceptions cruelles et des appréhensions terribles. Pour nous aussi, peut surgir d'un moment à l'autre l'annonce de graves difficultés. Notre souffrance, et la souffrance de Jésus se rencontrent. Puisse cette rencontre être féconde pour nos êtres intérieurs, et Dieu veuille en particulier que ce matin, en ce début de la semaine de la Passion, nous saisissions d'une manière claire et forte le message que la souffrance de Jésus apporte à notre propre souffrance. Vous m'entendez? Je parle assez fort. On peut penser que la première chose que nous révèle Jésus par sa passion, c'est que nous ne devons pas dire non à la souffrance. C'est terrible ce que je dis. Nous ne devons pas dire non à la souffrance. Parce que la souffrance nous fait mal, parce qu'elle nous heurte, parce que tout en nous proteste contre elle, nous sommes portés à voir en elle notre principal ennemi. Nous avons une tendance naturelle à vouloir y échapper. Beaucoup de chrétiens voient en leur foi un moyen plus ou moins sûr, et en tout cas pas négligeable, de se mettre à l'abri de la douleur. Et je repense à cette phrase, je ne sais pas si ici qu'elle était dite ou bien lors des études bibliques la semaine dernière, chaque jour, un des orateurs, je crois que c'était le pasteur, je ne sais plus lequel d'ailleurs, qui disait la foi est une assurance sur le meilleur. Vous voyez un peu la confusion possible. Excusez-moi. Beaucoup de chrétiens voient en leur foi Beaucoup de chrétiens voient en leur foi un moyen plus ou moins sûr de se mettre à l'abri de la douleur. Bon, combien de gens qui ne sont pas croyants ou qui ne sont croyants que par espoir de moins souffrir donnent ainsi à ceux qui les regardent l'impression que la religion est l'affaire des faibles. De ceux qui n'ont pas le courage de supporter leurs maux et qui fuient devant la souffrance. Et nous-mêmes, au surplus, qui savons si bien dénoncer la foi intéressée qui cherche à se mettre à l'abri des coups, ne nous arrive-t-il pas de pratiquer aussi, dans la vie de tous les jours, l'évasion hors de la souffrance? Quand nous ne voulons pas voir ce qui nous donnerait du souci ou de la peine, quand nous fermons les yeux sur les réalités qui gênent, quand nous anesthésions notre intelligence et notre cœur par la culture des illusions, quand nous nous étourdissons par le cliquetis des mots ou par le tourbillon des illusions, que faisons-nous, sinon de fuir la douleur et d'espérer y échapper en ne la regardant pas? Or Jésus, notre Seigneur, n'a pas fui la souffrance. Il l'a rencontrée sur son chemin. Il ne s'est pas dérobé à elle. Nous avons entendu tout à l'heure le poignant récit de cet entretien de Césarée de Philippe, au cours duquel le Seigneur a pour la première fois annoncé à ses disciples la décision intérieure qu'il avait prise d'accepter la souffrance et la mort. Stupéfaits, les disciples ont protesté, ne pourront admettre que pour le Messie, une pareille éventualité puisse se produire. À Dieu ne plaise, a dit Pierre, cela ne t'arrivera pas. Mais cette protestation de la part de ses amis, qui réveillait sans doute en lui les échos d'un douloureux combat intime, Jésus a répondu avec une émotion brûlante. Vos pensées sont des pensées humaines. Oui, je suis le Messie, mais quoique Messie, ou plutôt parce que Messie, je souffrirai, j'irai jusqu'au bout sur le chemin de la souffrance, car tel est l'ordre que j'ai reçu d'en haut. Et à partir de ce moment, en effet, la marche au calvaire a commencé, mystérieuse pour les disciples qui ne parvenaient pas à comprendre, mystérieuse aussi, sans doute, pour celui qui l'accomplissait avec obéissance. Un jour même, nous raconte l'Évangile, le pèlerin de ce voyage de souffrance s'arrêta. Au jardin de Gethsémané, Jésus, écrasé d'angoisse, se demanda si vraiment il fallait mourir. La souffrance qu'il avait assumée était si réelle, si épouvantablement réelle, qu'il faillit chanceler. Mais cela ne dura qu'un instant, et le Sauveur s'apaisa peu à peu dans un grand élan d'acceptation confiante de la douleur. Sur la croix, quelques heures plus tard, nouvelle angoisse. Le crucifié demande pourquoi. Mais de nouveau, la nécessité qui s'est imposée à lui de dire oui à la souffrance devient assez forte en lui pour tout balayer. Et après avoir tout accompli, après avoir tout souffert, il remet son âme brisée entre les mains du Père. Comprenons-nous bien tout ce que cela signifie pour nous. Nous aimerions toujours faire l'économie de la souffrance, mais c'est une entreprise qui n'est pas permise à des chrétiens. Disciple d'un maître qui a tant souffert, nous ne devons pas, nous ne pouvons pas vouloir échapper à la souffrance. En parlant ainsi, nous ne voulons pas dire que toute souffrance vienne de Dieu. Nous ne voulons pas trancher entre le débat entre les chrétiens qui peuvent et les chrétiens qui ne peuvent pas mettre tout ce qui nous arrive sur le compte d'un père. Ne disons pas non plus que la souffrance soit toujours nécessaire. Comment savoir ce qui est nécessaire? Et comment croire que Dieu ne soit pas libre de faire du bien à ses enfants comme il le veut, par la douleur ou sans la douleur? Ne disons pas davantage que nous devrions chercher la souffrance. Souffrir est trop horrible pour que nous puissions souhaiter par un tel chemin, par un chemin aussi dur. Et nous ne voulons pas dire, enfin, que nous ne puissions jamais accepter la souffrance des autres, car se résigner à la douleur des autres, c'est facile, mais c'est pas chrétien. Non. Non. Ce que nous voulons dire, c'est que des chrétiens, des disciples du crucifié, ne doivent pas dire non à la souffrance à eux, qu'ils ne doivent pas être hantés par la peur de souffrir, qu'ils ne doivent pas considérer la souffrance comme leur plus grand ennemi. En refusant de souffrir, nous nous retrancherions de la plus grande solidarité qui unit ici-bas les membres de la douloureuse famille humaine. Refuser de souffrir serait de notre part refuser de suivre Jésus sur le chemin d'amour et de fidélité où il nous appelle. Du haut de sa croix, le Sauveur nous supplie, nous ses disciples, de ne pas dire non à la souffrance. Mais il nous faut aller plus loin, plus profond, et prêter l'oreille à ce que la passion de Jésus nous dit maintenant, non plus seulement de la nécessité d'accepter la souffrance, mais de la fécondité de la souffrance. Là est le point essentiel. S'il vaut la peine de souffrir, en effet, c'est parce que la souffrance est féconde. Jésus n'a pas souffert pour souffrir, il a souffert pour sauver. Quand il a accepté de faire sienne la douleur humaine, ça a été enfin de s'en servir comme d'un moyen pour délivrer l'âme humaine. Il avait lu dans l'Ancien Testament tant et tant de passages qui montrent l'utilité spirituelle de la souffrance, et en particulier ce magnifique chapitre 53 d'Ésaïe que nous avons lu tout à l'heure, où le serviteur de l'Éternel apparaît comme prenant sur lui les fardeaux des malheureux et des coupables pour les en délivrer. Il avait relevé aussi que l'amitié n'est totale que si l'ami est capable de donner sa vie pour ceux qu'il aime, ou pour ceux qu'on aime, pour ceux que notre cœur aime. aussi quand il a commencé à voir se profiler sur son chemin l'ombre d'une croix, sa chair, il est vrai, a frémi, tremblé, et son cœur a frémi aussi. Mais son esprit a perçu, derrière cette croix, les fruits qu'elle pouvait porter, les souffrances dont elle devait être l'instrument. Et alors, en vue des fruits, en vue des délivrances, il a accepté la croix, il a accepté la souffrance, non pas sans peine, certes, car les fruits étaient là-bas, dans l'avenir, et la croix était là, présente, toute proche. Au jardin de Gethsémané, sur le calvaire, l'acte de foi à faire en pleine nuit fut dur et difficile. Mais aussi, quelle illumination et quelle victoire lorsqu'au lendemain de la crucifixion qui marquait le sommet de sa souffrance, de la souffrance, est venue la résurrection qui proclamait que la mort n'avait pas le dernier mot et que Dieu bénissait ce sacrifice de son Fils et qu'il en garnissait par un miracle inouï l'éternelle fécondité. Ce qui a été la certitude de Jésus doit être aussi la nôtre. Nous devons croire que, comme les siennes, nos souffrances sont fécondes. Elles ne le sont pas automatiquement, c'est vrai. Quand nous permettons à la douleur de nous accabler, lorsque nous nous laissons aller, lorsque nous nous laissons aigrir, nos épreuves nous rendent débiles, bien sûr. Notre souffrance est mauvaise. Mais quand nous souffrons dans le même esprit que Jésus-Christ, quand nous souffrons avec Dieu, cherchant en lui la force que nous ne pouvons pas trouver en nous, alors que notre douleur, comme celle de notre maître, est merveilleusement féconde. Pour ceux qui la vivent ainsi dans la ligne de Jésus, la souffrance est pareille aux ciseaux du sculpteur, qui en apparence mutile la pierre, mais qui en réalité lui donne une valeur, une beauté, que sans cela, elle n'aurait jamais pu connaître. Pour ceux qui la vivent dans la ligne de Jésus, la souffrance est pareille au soc de la charrue qui ouvre la terre, qui la déchire douloureusement, mais qui permet à la semence d'y être jetée et d'y croître. L'expérience prouve que les semences de Dieu ne germent nulle part aussi bien que dans un cœur brisé. Et non seulement la souffrance ouvre les cœurs à Dieu, mais elle les ouvre aussi aux hommes. On n'aime jamais autant que lorsque le cœur fait mal. Je ne sais plus qui a dit que les trésors infinis de charité peuvent mettre au jour une douleur chrétienne. Et la souffrance est féconde en ce sens qu'elle expie. Mystérieuse réalité que celle de l'expiation. Comment une souffrance peut-elle racheter une faute? Logiquement, c'est difficile à comprendre. Et j'ai du mal aussi à le comprendre. Pratiquement, nous savons que cela est, et que par conséquent, quand une douleur terrible fond sur nous, elle peut être transfigurée par le fait que nous l'acceptions comme une expiation, soit par nos fautes, soit pour nos fautes, soit celles des nôtres, soit pour celles du monde. Enfin, suprême utilité de la souffrance, elle se fait entrer dans une communion plus étroite, plus intime avec notre Sauveur. Le chrétien sait que l'essentiel pour lui est d'être avec son Sauveur, de vivre étroitement lié avec lui, pour recevoir tous les bienfaits. Ce chrétien, quand il sera le plus torturé par la souffrance, ne la maudira pas cependant, puisque par elle, il pourra réaliser son idéal intérieur, puisque par elle, il sera plus près de Jésus. Dans ses épîtres, Paul prononce cette parole extraordinaire. J'achève de souffrir les souffrances du Christ. Quelle audace dans une telle déclaration. Comment un homme peut-il prétendre que sa souffrance est la prolongation, l'achèvement de celle du Fils de Dieu? Eh bien, l'apôtre a cette audace, parce que réellement, ce n'est plus lui qui souffre, mais c'est Christ qui souffre en lui. Nous n'en sommes pas à ce sommet, mais nous serons en marche vers ce sommet si pendant cette semaine sainte en particulier, nous regardons de tout notre être à celui qui a tant souffert, afin de recevoir de lui la grâce de souffrir comme lui, solidairement, courageusement, utilement, avec l'aide de Dieu. Amen.